Je vous propose que l'on puisse avoir un échange avec le professeur Murenzi. Tout d'abord, professeur, merci encore d'être avec nous. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que, pour vous, les révolutions, la révolution numérique change fondamentalement dans le monde aujourd'hui? Quelle est votre perception de ces changements dans ce que vous vivez vous-même, mais aussi vous comme directeur de ce service à l'UNESCO?
Merci beaucoup de m'associer à cette importante discussion. Vous savez que la science, la technologie et l'innovation sont très, très importantes pour le progrès économique, la croissance économique et aussi la réduction de la pauvreté. Nous ne pouvons pas partager ce que nous avons. Sur la croissance économique est considérée par les gouvernements comme essentielle. Chaque trimestre, les pays doivent donner le pourcentage de croissance ou de décroissance économique. Et ça, c'est très important à comprendre pour savoir dans quel monde nous vivons pour le moment. Et depuis très longtemps, les économistes ont essayé, comme vous le savez, de savoir qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir une croissance économique continue. Et Robert Solow, qui est un Américain, un économiste, en 1956-57, il a fait une étude. Il a montré que l'économie américaine de 1909 à 1949, donc ça c'est 40 ans, plus de presque 90% de la croissance économique américaine de l'époque est venue du progrès scientifique et économique. Le capital et le labor n'étaient plus la chose la plus importante, ce n'est que 10%. Et cela a poussé les gouvernements à pousser la science et la technologie dans. Et comme vous le savez, Robert Solow a eu un prix Nobel de l'économie. Les pays vont faire ça. Et nous vivons maintenant un moment où le numérique est à l'avant-garde de l'innovation. Et les pays vont faire ça absolument. Mais le numérique, c'est quoi quand on le regarde? La notion de données, la notion de... Je peux vous donner, si on prend un exemple, si vous avez un téléphone mobile, normalement, quand vous appelez, la voix, c'est vraiment une dimension. C'est comme vous parlez de 500 points sur une ligne, et vous envoyez le signal, ça va. Si c'est une image, vous avez 500 fois 500. Mais si vous avez une vidéo, ça vous fait 500 fois 500, et puis vous avez le temps. Vous avez un volume que vous envoyez. Et les expériences sont complètement différentes. Si j'envoie la voix, je vous parle, je viens d'avoir un enfant, ou bien si je vous envoie simplement une photo, je viens d'avoir un enfant, ou bien je vous envoie une vidéo où je suis en train de mettre au monde, l'expérience est complètement différente. L'expérience est complètement différente. Donc dans les trois étapes, nous naviguons des petites données jusque dans les grandes données. Et même maintenant, nous arrivons même où, quand vous êtes dans la rue maintenant, on peut même vous reconnaître. Je suis capable de pouvoir prendre votre photo et le mettre sur Internet et vérifier qui vous êtes automatiquement. Essayez de savoir si c'est Murenzi Romain ou c'est Jacques qui est en train de marcher dans la rue, maintenant aussi avec le GPS. Partout où vous allez. Et ça devient tellement dangereux parce que quelqu'un peut déjà décider qui vous êtes, même avant de vous avoir rencontré. Donc l'accès aux données et aux données privées est encore même plus importante. Je peux vous voir comme ça et je décide, mais simplement en vous voyant. Mais si je parviens maintenant à entrer dans vos données, quand est-ce que vous êtes né, votre famille, les parties qui sont liées à votre génétique, tout ça, les données médicales, ça change complètement.
Vous soulevez justement des questions éthiques, on voit bien. Donc on voit bien tous les progrès que le numérique apporte. Et à l'instant, vous venez de mettre le doigt sur des problèmes possibles, sur le respect des personnes, sur le respect de la vie privée, sur le respect des données. J'imagine qu'en même temps que ces progrès s'opèrent, notamment sur tout ce qui est big data, sur ces données de masse, il y a aussi des réflexions sur la sécurisation et sur le respect des personnes qui accompagnent ces évolutions.
Et absolument. Donc avec la capacité numérique la capacité de stockage de données, on peut collecter tout un ensemble de données sur la personne. Mais ces données-là, ces nombres-là se traduisent pour la personne, ça se traduit sur une identité de la personne. Même une identité qui n'est pas révélée par la personne. Parce qu'il y a des choses de vous que vous ne connaissez pas, mais si quelqu'un va dans vos données, peut essayer de découvrir qui vous êtes, même avant de savoir vous-même ce que vous allez faire. Et là, c'est ça, ça devient assez dangereux. Et l'Europe, en général, et les pays de l'OECD, ils ont une législation qui s'appelle la Data Protection, qui a été adoptée il y a quelques années, et ça va beaucoup bien. Mais dans les pays en développement, par exemple, dans pas mal de pays, bon, je dirais 140, 150 pays, ils n'ont pas cette protection-là, quoi. Tous les gens qui vont maintenant sur Twitter, sur les Facebook, et les données que les gamins, les jeunes mettent, les photos de votre famille, tout maintenant, vous ne savez pas ce qui va se passer dans 10 ans. Dans 10 ans, dans 20 ans, quand vous allez chercher du boulot, on va essayer de voir ce que vous faisiez, même pouvoir prévoir votre comportement. Donc, du point de vue éthique, on doit faire ces discussions-là.
Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, on le voit aujourd'hui, à travers toute cette traçabilité, d'une exploitation, je dirais, essentiellement commerciale de tout ça? Finalement, que nous devenions un peu chacun des consommateurs potentiels, de plus en plus tracés, j'allais dire surveillés, de façon à être identifiés d'abord par notre capacité d'achat, d'avoir un rapport sur investissement par rapport au suivi que l'on fait de vous. Est-ce qu'on n'est pas en train d'instrumentaliser tout ça au service d'une consommation croissante? Alors, vous souleviez tout à l'heure l'intérêt pour l'économie, mais est-ce que cette croissance de l'économie, telle qu'elle peut être envisagée à travers ces bases de données, ne va pas être aux dépens, finalement, de rapports essentiellement commerciaux entre nous?
Oui, il y a la partie commerciale, mais aussi il y a la partie sécurité des pays. Les deux vont ensemble. Quand l'Europe a mis en place la législation, vous voyez du point de vue historique, la législation sur la protection des données, ils pensaient surtout à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'accès aux données de la personne, les droits de l'homme, ils essaient de protéger ça. Quand vous allez chez le médecin ou bien vous allez à la banque, des fois on vous dit de signer que vous acceptez, même quand vous allez sur internet, que vous acceptez de donner vos données. Mais en fait, en signant ça, vous acceptez en fait des fois qu'ils puissent aussi exploiter vos données. Et ça, c'est très très important à penser. Il y a la partie économique, la partie commercialisation de ces données-là parce qu'ils ont une valeur, mais aussi ils ont une valeur de sécurité. Par exemple, quand vous devez par exemple aller dans certains pays, on doit d'abord demander que vous ayez, on ait d'abord vos données, même avant que vous n'arriviez là-bas. On peut même décider que vous n'entriez pas dans l'avion. De la notion de la sécurité, les pays y pensent très très, très fort. Et là, ce qu'on appelle la cyber security, comme vous savez, ces derniers temps, on peut même aller dans votre email et au niveau de votre email, on fait ce qu'on veut. Vous savez, traditionnellement, une lettre, c'est sacré. Ça va par la poste. Personne n'a le droit d'ouvrir la lettre. Même si on ouvre la lettre, on n'a pas le droit de l'utiliser dans une cour de justice. Parce qu'on n'a pas eu la lettre à partir d'un juge, d'un mandat. Mais un email, quelqu'un vient ouvrir votre email et il trouve quelque chose. Il peut déjà vous condamner déjà parce qu'il n'y a pas une bonne protection de ça, quoi. Et ça, c'est des choses qui sont très, très importantes. Si vous donnez vos données à la même chose avec Facebook et autres, on peut utiliser ces données-là contre vous. Bien qu'ils sont déjà commercialisés, déjà avec les parties qui sont liées, le marketing, etc. Même si vous allez dans le Facebook, vous ne payez pas, mais vous avez donné votre personnalité à la personne, vous avez donné votre personnalité à Mark Zuckerberg. Il a tout ça. Pendant les 10, 20, 30 prochaines années, il a ça. Vous vous croyez bien, oh, j'y vais là-bas, je stocke toutes mes données, mais si vous allez les demander, on ne va pas vous les donner.
Alors, professeur, vous venez d'évoquer les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme. On est dans un haut lieu ici, en lien avec l'ONU, des droits de l'homme. Est-ce que par rapport à tous ces défis aujourd'hui que pose la révolution numérique, ne sont pas soulevés à nouveau l'actualité de ces droits de l'homme? Est-ce qu'aujourd'hui, les textes qui existent pour honorer, respecter ce qu'est la dignité humaine ne sont pas invités à évoluer, ou au contraire, les dispositifs qui existent aujourd'hui sont suffisamment bien définis pour faire face à tous ces problèmes éthiques, moraux, déontologiques sur le respect de la personne, selon vous?
Selon moi, l'Europe présente la bonne législation jusqu'à présent. L'Amérique, ils n'ont pas une législation. Ils ont des législations qui sont par secteur. Ici, ils ont ce qu'on appelle omnibus législation, qui la protection des données en général. Et la plupart des pays, ils ont un commissaire de la protection des données, tout ça. Aux États-Unis, ça va encore, je dirais. Mais la plupart des pays dans le monde, ils n'ont pas ça. Et ils adoptent de plus en plus l'accès aux données, mais ils ne sont pas protégés. C'est-à-dire que vos données, quand vous les donnez dans la plupart des pays en développement, parce que de là où je viens, vos données ne sont pas protégées. Ils peuvent les utiliser contre vous dans une cour de justice. Ils peuvent les utiliser. Ils peuvent venir avoir accès à votre email sans ça. Je pensais à ce que on puisse penser à ces... D'abord, il y a la partie législation, mais la législation est liée à la partie des droits de l'homme, le droit de la personne. Ce qu'on appelle le droit de la personne maintenant sera vraiment lié à ces données. Vos données, c'est vous. Parce qu'on peut faire un mapping entre vous et vos données. On peut même prévoir dans le futur si vous aurez l'Alzheimer, si vous aurez ceci, si vous aurez ça. Il y a des choses qui peuvent prévoir déjà avec vos données. C'est pour cela, par exemple, les données médicales sont très, très importantes. Le respect de ces données-là, leur protection est très, très importante. Mais, des fois aussi, ces données médicales, ils sont commercialisées. Parce que des fois, si par exemple, vous êtes au Rwanda, ou vous êtes au Burundi, ou vous êtes au Bénin, vous pouvez ne pas avoir un médecin pour le cancer, par exemple. À ce moment-là, vous êtes obligé d'envoyer vos données dans des pays où il n'y a pas de protection de données, je ne dis pas, où, par exemple, le coût médical est bas. Vous envoyez vos données là-bas. Bien sûr, on peut vous traiter, mais vos données restent avec eux et ils peuvent les utiliser parce qu'ils n'ont pas une législation qui protège les données.
Merci beaucoup, professeur. Vous nous avez éclairé sur ces questions de droit, du respect des données, des personnes. Et puis, à travers ce que vous nous dites, vous nous invitez à être des citoyens responsables, éveillés à toutes les belles perspectives qui s'ouvrent pour nous, mais aussi vous avez soulevé quelques-uns des dangers qui peuvent nous guetter, non seulement comme personnes, mais aussi qui doivent nous alerter comme citoyens et au niveau des droits et de ce que l'on fait, de ce que nous sommes, parfois possiblement à notre insu. Donc vous nous invitez vraiment à être des citoyens éveillés sur toutes ces questions-là qui évoluent tellement, tellement rapidement ça nous invite pratiquement à être en alerte permanente sur ces évolutions très très rapides. Un grand merci pour tout ce que vous nous avez partagé. Et merci à l'UNESCO de prendre ces questions pour nous aussi et de nous inviter à être éclairés sur cette grande question du devenir humain.
Merci beaucoup. Si vous me permettez un mot, du point de vue, parce que c'est catholique et religieux, les données iront même jusqu'à savoir ce que vous pensez du point de vue spirituel. Et ça devient très très dangereux dans certains pays, dans certains endroits. Et c'est des choses auxquelles nous devons discuter et faire attention. Merci.